France Culture. La matinale du samedi, Caroline Brouet.
C'était donc l'ouverture du journal. Il y a 3 ans, jour pour jour, le 10 juin 2014, la ville de Mossoul en Irak tombait aux mains des djihadistes de Daesh. Quelques jours plus tard, Mossoul était proclamée capitale du nouveau califat. La bataille de Mossoul, qui fait rage entre les djihadistes de l'État islamique et les soldats de l'armée irakienne depuis 8 mois, est donc hautement symbolique et elle est en passe d'être emportée par l'armée irakienne, épaulée par la coalition internationale. Même situation de l'autre côté de la frontière en Syrie, où les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis combattent l'État islamique dans le cadre de la grande offensive dite colère de l'Euphrate lancée en novembre pour reprendre la ville de Raqqa aux mains de l'État islamique depuis plus de 3 ans. Raqqa, où ces forces démocratiques syriennes ont réussi cette semaine à pénétrer. Alaa Kodmani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, vous êtes grand reporter, vous étiez à Raqqa en 2013, vous étiez en Arabie Saoudite il y a quelques semaines. On vous doit un livre bouleversant qui s'intitule « Seul dans Raqqa » sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Il a paru il y a quelques mois aux éditions des Équateurs. Je voudrais qu'on parle de ces villes, de ces deux villes et de la façon dont on vit aujourd'hui dans ces deux villes. D'abord, est-ce que ce sont deux villes symboles, Mossoul et Raqqa ?
Non, c'est un statut complètement différent. Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Mossoul est la deuxième ville d'Irak. C'est une capitale historique qui a beaucoup d'importance à l'époque abbasside. Mossoul, c'est de là que le mot mousseline vient. Donc c'était sur la route de la soie. Et c'est une ville avec beaucoup de patrimoine, beaucoup d'histoire, très chargée. Et c'est pour ça aussi que Baghdadi avait choisi Mossoul, parce qu'il est irakien aussi, mais pour déclarer le califat, pour décréter le califat. Alors que Raqqa, c'est une capitale complètement opportuniste pour l'État islamique, parce que c'est la ville presque la plus insignifiante de Syrie, pas la plus insignifiante, elle est la 6e ou 7e ville de Syrie, elle se trouve dans le désert, elle n'a pas beaucoup de charges historiques ou même politiques du point de vue syrien ou même dans toute la région. Et c'est beaucoup plus à cause de sa proximité avec l'Irak et puis parce que ça a été une proie facile où Daesh a pu pénétrer.
Qui combat aujourd'hui à la Kodmani, à Mossoul d'un côté, à Raqqa de l'autre?
Qui combat du côté de l'État islamique?
Les deux côtés. Quelles sont les forces en présence? Alors l'État islamique.
C'est vrai que c'est une vraie question. Bon, l'État islamique, on voit qui c'est. Enfin, on voit qui c'est. Cela dit, c'est intéressant quand même de faire la distinction entre les combattants locaux qui ont été recrutés ces dernières années par l'État islamique qui occupait leur ville, comme des gens de Raqqa ou de Mossoul, et les djihadistes internationaux, c'est-à-dire qui peuvent venir de 150 pays différents. Et c'est sûr que la façon de se battre des uns et des autres n'est pas la même, le rapport n'est pas le même, et là, il y a quelques jours, par exemple à Raqqa, je sais que les forces kurdes démocratiques syriennes ont fait appel aux habitants, enfin aux combattants syriens, de se rendre s'ils voulaient pour être protégés, et il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est une façon aussi de diminuer les forces.
Et donc de l'autre côté.
Alors de l'autre côté, bon,
c'est aussi compliqué.
C'est très compliqué parce que bon, du côté c'est très différent aussi. Du côté irakien, normalement, c'est le gouvernement et l'État légitime irakien qui sont à la commande des forces sur le terrain.
On parle d'une centaine de milliers d'hommes.
Oui, mais en réalité, il y a plusieurs choses. C'est que il y a beaucoup. L'armée irakienne n'a jamais été vraiment bien reconstituée depuis qu'on a renversé Saddam Hussein, depuis la première guerre d'Irak, enfin l'invasion américaine. Et il y a plusieurs formations militaires. Alors il y a des troupes d'élite, il y a une troupe d'élite. Alors là, ça a été les premiers qui ont lancé les assauts à Mossoul au mois d'octobre, je crois. Et après, il y a d'autres. Il y a des forces qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Il y a des forces qui dépendent. C'est pas. Mais bon, et ce sont grosso modo les Américains qui coordonnent. Et il y a aussi des milices qui est d'obédience iranienne essentiellement, hein, mais très communautariste, c'est-à-dire confessionnel, chiite, ce qu'on appelle les forces, le Hashd, les forces de la mobilisation, qui sont qui ont très mauvaise réputation et qui sont très redoutés par la population, parce que par la population de Mossoul est essentiellement sunnite, et ils ont très peur des exactions, mais ces milices sont en train de prendre part au combat, et surtout d'aller plus loin en dehors de Mossoul pour reprendre du terrain à l'État islamique.
Et de l'autre côté, en Syrie, les forces démocratiques syriennes sont constituées de Kurdes, beaucoup, et d'Arabes. Alors, est-ce que ce sont des Syriens qui sont à nouveau soutenus par la coalition internationale?
Les forces combattantes. Ce qu'il faut souligner, c'est que des deux côtés, le chef d'orchestre est américain, quand même. Et que c'est vraiment eux, c'est sans l'appui de l'organisation, des raids aériens, souvent même des troupes, quelques commandos au sol pour donner un coup de main, notamment à Raqqa. Bon, ces forces ne seraient pas en mesure de mener la bataille, notamment en Syrie, à Raqqa, où les Américains ont choisi de s'appuyer sur ces forces kurdes, qu'ils avaient déjà couvert à Kobané, etc. Bon, ils ont l'habitude de travailler avec eux. Ils les entraînent depuis 2 ou 3 ans, les encadrent, les financent, etc. Bon, ils ont investi dans ces forces-là pour ce combat-là. Ce sont des forces essentiellement composées de Kurdes d'une formation particulière qui est le PKK syrien, qu'on appelle le PYD, mais ça regroupe. Il y a une entente avec quelques combattants arabes qui ne prennent pas vraiment part au combat, mais ni qui sont à la décision, mais qui ont en quelque sorte l'agrément d'une partie de la population de Raqqa, y compris des chefs de tribu qui comptent beaucoup dans cette région, qui font le lien un petit peu entre ces forces-là et la population.
Et la population prise en étau. On entendait le reportage à Mossoul dans le journal d'Omar Rouhman. On peut lire dans le Figaro, sous la plume de Samuel Forêt et Thierry Auberlet, pour le côté Mossoul, que 200 000 civils sont sur place, dont près, disent-ils, de la moitié seraient des enfants pris au piège à Mossoul-Ouest, dans la Médina, faite de ruelles entrelacées construites à l'époque ottomane, qui seraient sans médicaments, sans hôpital, avec une population qui se nourrit aujourd'hui de chats, de cartons mouillés et d'herbes. On peut lire aussi le reportage de Rémi Ourdan et Laurent Van Der Scott dans Le Monde, où ils parlent d'une vieille ville, où les raids aériens sont presque impossibles, où les blindés ne passent pas, où la lutte finale se fera pied à pied. Ce qu'on lit à la Kodmani, ce qu'on voit, ce qu'on entend plus exactement, c'est que de part et d'autre, que ce soit à Mossoul ou à Raqqa, et vous avez bien décrit Raqqa dans votre livre, Seul dans Raqqa, c'est que la bataille se fait quartier par quartier, dans les deux cas, bloc de maison par bloc de maison, que les djihadistes à Raqqa, par exemple, ont bâti des fortifications, ils ont creusé des tunnels et des tranchées, et que les civils, c'est pour ça qu'on insiste sur les civils sont complètement prisonniers, parfois pris pour des boucliers humains.
Bah, ils sont, les civils sont les victimes dans tous les sens, parce que ils sont victimes, évidemment, ça fait quelques années qu'ils vivent sous le joug de...
Trois ans.
Voilà, ça fait 3 ans. Raqqa plus. Raqqa, c'était...
3 ans et demi, je
2013,
crois.
2013, ouais. Donc, 4 ans, pratiquement. Et ils subissent, depuis 2 ans, des raids aériens. Souvent assez meurtriers. Et Raqqa, par exemple, hier, on voit des photos sur les réseaux sociaux, enfin, moi par les habitants qui sont encore là-bas, il y a eu des sortes de bombes au phosphore, enfin ils disent phosphore, bon, je ne sais pas quelles sont les appellations, mais qui font des espèces de véritables feux d'artifice qui sont lancés depuis 2 jours par l'aviation sur la ville pour justement choquer un petit peu, remuer... les combattants de l'État islamique, évidemment, c'est pas les civils qui sont visés, mais ce sont quand même les civils qui trinquent, et qui trinquent de tous les côtés, c'est-à-dire au sol, parce qu'ils sont pris au piège, parce qu'il y a les combattants de, enfin, les forces de l'État islamique qui les prennent en bouclier humain, qui les maltraitent, et comme vous venez de dire, comme tous les reporters le soulignent, et qui les qui les retiennent, et en plus, ils sont agressés par les attaques aériennes des Américains ou de la coalition.
Alaa Khodmani, est-ce que il faudrait se réjouir d'un côté comme de l'autre, l'État islamique est chassé de ses villes? On se souvient quand même de la façon dont la population d'Alep a été traitée après le retour de l'armée syrienne, attaque chimique en particulier. Est-ce qu'il faut s'en réjouir de...
Bien sûr que... Bon, il faut se réjouir que l'État islamique ne soit plus là. Je crois que la population, il est certain, soufflera. Pas pour le moment, on est en plein dans le chaud là. Mais évidemment qu'ils veulent voir la fin de cette véritable occupation, parce que c'est ressenti comme une véritable occupation, cauchemar, etc. Maintenant... Il faut peut-être s'interroger, enfin on s'interrogera sans doute, de comment on a laissé l'État islamique s'installer là-dedans. On l'a vu venir, les Syriens l'ont vu venir, les Irakiens aussi. Pendant un an, ils sont entrés et personne n'a agi, notamment les forces sur place, notamment les gouvernements irakiens, syriens, etc. Ils les ont même laissés faire. Bon, du côté syrien, c'était pour montrer que il y a pire que Bachar el-Assad. C'était une vraie stratégie. Mais du côté irakien aussi, il y a eu... C'est un petit peu le chaos et la faute de contrôle. Et du côté international, on les a vus venir, on les a vus s'installer jour après jour. Et il a fallu attendre qu'ils tiennent toute la moitié de la Syrie et un bon tiers de l'Irak en main pour déclencher une action. Et bon, je crois que c'est une interrogation à se faire maintenant. Bon, maintenant, l'essentiel, c'est de les dégager de là. Enfin, l'essentiel, il faut aussi penser à l'après.
À l'après.
France Culture. La matinale du samedi, Caroline Brouet.
Et nous penserons effectivement avec vous à l'après, à Alaa Khodmani, mais pensons d'abord au présent et justement à l'État islamique. État islamique dont on dit que, de fait, il perd du terrain dans les deux grands bastions qui étaient importants pour lui. Signe d'un affaiblissement, c'est peut-être la question qu'on peut poser tout de suite. En tout cas, on va la poser à Myriam Benrad qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes chercheuse à l'Institut d'études et de recherche sur le monde arabe et musulman, vous êtes spécialiste de l'Irak. Votre dernier livre, paru chez Armand Collin, s'intitule « L'État islamique pris au mot ». Je voudrais citer un de vos collègues sur l'Irak, Pierre-Jean Luizard, qui cette semaine, interrogé dans les Inrecuptibles, disait que ce qui devrait nous interpeller, c'est la capacité de résistance de l'État islamique, qui a pris Raqqa, si je ne m'abuse, en 4-5 jours, mais qui là résiste pied à pied, c'est-à-dire que Daesh perd du terrain, mais de façon relative, nous dit Pierre-Jean Luizard. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Benrad?
Moi, je pense que ça renvoie à ce que Alaa Khodmani vient de dire très justement. On a un problème au niveau des États, des institutions. Il faut revenir, évidemment, pour comprendre cette résilience, il faut revenir sur les conditions qui ont effectivement permis à ce groupe de prendre le pouvoir. Bon, si on se place du côté irakien à Mossoul, ça a été le résultat d'une longue déliquescence de l'État, des institutions locales, l'armée qui ne remplissait pas ses fonctions à Mossoul, la corruption aussi qui a beaucoup joué, le manque de tout, qui a fait que la population a pu voir dans le projet djihadiste une sorte d'utopie, de justice sociale. Enfin, c'était la promesse que les djihadistes avaient fait à ceux qui avaient accepté de leur prêter allégeance. Et fondamentalement, en fait, ce qu'on constate, par exemple, si on regarde du côté irakien, c'est que ces conditions qui ont conduit à la montée en force de l'État islamique, elles n'ont pas disparu. Donc les opérations militaires, elles n'ont pas réglé sur le fond les problèmes qui, donc je disais, relatifs notamment aux États, à des États faillis, qui ont permis de prime abord aux djihadistes de s'installer. Ils se sont installés dans le vide, en quelque sorte, dans beaucoup de ces territoires.
Oui, mais donc ça suppose que la question de l'après est une question très très importante et qu'elle n'est pas du tout réglée. Mais vous ne répondez pas, me semble-t-il, à la question d'aujourd'hui sur le signe du déclin de Daesh ou le signe d'un redéploiement ailleurs. Certains disent l'État islamique n'existe plus, d'autres disent il a réorganisé sa structure militaire ailleurs, il se redéploie à l'international, d'où la multiplication ces dernières semaines des attentats un peu partout dans le monde. Myriam Benrad.
Oui, non, il a pas ça, c'est qu'il a clairement pas disparu. C'est-à-dire qu'il y a une déroute au niveau militaire à l'heure actuelle dans les bastions qui sont pris par les différentes forces alliées, qu'on parle de Raqqa ou de Mossoul ou d'autres territoires. Cela étant, si je me place encore une fois sur le terrain irakien, on a déjà un redéploiement des djihadistes dans plusieurs régions, notamment dans la province d'Al-Anbar, dans des villes comme Fallujah, Ramadi. Ils ont aussi attaqué récemment la ville du sud, Basra, qui est une ville mixte. On a des dizaines et des dizaines d'attentats, dont certains extrêmement meurtriers, qui touchent notamment Bagdad. Donc ça, c'est très, je dirais, très familier. Hein. On observait déjà cette tactique clandestine d'attentats suicides dans les années 2000. Hein. Il faut aussi replacer ça dans le temps plus long. Donc non, pas du tout de disparition. Le groupe, par ailleurs, maintient une base sociale quand même, notamment auprès des plus jeunes, hein, qui n'ont connu que lui. Comme vous le disiez, il y a cette stratégie de transnationalisation du combat. L'État islamique, c'est plus qu'un territoire, c'est une idée qui se diffuse, on le voit, avec effectivement les allégeances qui sont faites dans différents pays du monde et ces attentats, c'est absolument meurtrier qui nous touchent. Mais d'ailleurs, quand même, j'aimerais dire de ce point de vue un dernier mot, qui ne sont pas simplement une réponse aux pertes du groupe sur le terrain moyen-oriental, hein. La question de d'attaquer l'Occident, de s'en prendre à nos sociétés, elle est antérieure. Hein, donc il faut quand même bien comprendre aussi que c'est une stratégie de long terme et que ce n'est pas seulement les djihadistes ne répondent pas seulement à ce qui se passe au Moyen-Orient.
Oui, et c'est une idéologie, ce que vous montrez bien dans votre livre « L'État islamique pris au mot » qui vient donc de paraître chez Armand Collin. Merci Myriam Benrad d'avoir été au téléphone avec nous. Une réaction à la Kodmani, l'État islamique aujourd'hui compromis ou au contraire en passe de se réorganiser autrement, ailleurs?
Je voudrais d'abord souligner qu'après Raqqa et Mossoul, c'est pas fini, hein. Il y a encore des régions entières, et notamment en Syrie, la ville de Deir ez-Zor, la région de Deir ez-Zor, qui va être une bataille très importante et que maintenant se replient les forces de l'État islamique, et ainsi que dans le désert autour de Palmyre. Donc ces deux points de repli qui vont durer un certain temps, même après Raqqa ou Mossoul. Maintenant, même si on va dire que le territoire du califat de l'État islamique va disparaître assez rapidement, je sais pas, ce sera à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, peu importe. Mais le problème, c'est que c'est pas une idéologie, cette façon de faire, le salafisme djihadiste, terroriste, il dure, il existait avant l'État islamique, depuis Al-Qaïda, et même avant, et il va durer après. Et alors, ça sera, bon, quelques îlots qu'ils auront dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région, et puis surtout à travers des actions, des groupes à l'international, comme ça a commencé à se faire.
Oui, justement, penser l'après, penser peut-être la reconstruction d'un État, puisque l'État islamique est apparu sur les décombres d'un État, hein, sur un État failli. Penser l'après, c'est aussi penser l'après dans une région. Or, on a vu mercredi deux attentats à Téhéran. C'est une première attaque de l'État islamique en Iran. Jeudi, le ministère iranien des renseignements a affirmé que les auteurs des attentats de Téhéran étaient passés par Mossoul et Raqqa. On voit bien que les choses se s'entremêlent, qu'il y a des Iraniens qui se battent aussi contre Daesh en Irak et en Syrie à la Kodmani. Alors, est-ce que ça veut dire que la guerre se déplace?
Je crois que bon, c'est vrai que l'attentat à Téhéran, en Iran, c'est une grande première pour l'État islamique, qui permettait. On s'étonnait d'ailleurs qu'il n'y en ait pas. C'était d'ailleurs un argument pour beaucoup de, notamment en Arabie Saoudite, que j'ai beaucoup entendu, qui disait que c'est l'Iran soutient Daesh puisque tiens, une des preuves qu'ils disent toujours, c'est comment ça se fait qu'il n'y a jamais d'attentat en Iran. Maintenant, il est certain qu'ils vont aller s'attaquer à la région en priorité, puisqu'ils y sont, et qu'ils vont essayer de se survivre comme ça à travers le monde. Peut-être que s'ils seront repris par Al-Qaïda, peut-être qu'ils sont, il y a mille façons. Ce qui est important pour qu'ils ne se reconstituent pas en une entité, du moins dans la région, c'est, il est certain, ce sont de reprendre des pays, que les pays, les gouvernements, les États se reconstituent véritablement.
Mais ça c'est vrai en Irak, mais en Syrie l'État existe, en tous les cas il a un chef.
Mais non, il n'existe pas, qu'est-ce que c'est que c'est l'État syrien n'existe pas depuis 2011, depuis 2012. Je veux dire, c'est l'argument que Bachar el-Assad représente l'État syrien, mais il y a un chaos dans l'État, sur le territoire qui dure des années. Il contrôle un peu plus maintenant grâce à la reconquête de l'armée russe, appuyée par l'armée russe. Mais dans les faits, le chaos, et même dans les régions contrôlées par le régime Assad, c'est un petit peu comme en Irak, c'est-à-dire corruption, désordre, et milices privées ou milices pas de centralisation. C'est ça continue. Et ce fait-là, je veux dire, c'est pour ça que l'après ne peut se penser que dans les transitions vraiment cohérentes, stables, démocratiques dans les deux pays.
Vous avez à la Kodmani des liens, de fait, avec les Syriens, avec la population syrienne. Mais on peut jamais parler de façon générale, surtout dans ces cas-là, mais avec, disons, ceux avec qui vous parlez, avec qui vous entretenez des contacts très réguliers, dans quel état d'esprit sont-ils ?
Oh, ils sont... D'abord, ils sont beaucoup déplacés. Il faut voir que la moitié de la population syrienne n'est plus chez elle. Donc, leur première préoccupation, c'est est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous un jour ? Qu'ils soient en Turquie, qu'ils soient dans le nord et qu'ils vivent au sud. Bon, on apprend un nouvel exil. Là, je crois qu'il y a une grande partie de la population syrienne qui doit apprendre qu'elle ne retournera pas. Ou dans son pays quand ils sont sortis, ou dans sa ville, ou son village, sa maison, etc. L'état d'esprit, c'est une très grande division dans le pays. Il y a chacun à voir la sortie à sa porte, en quelque sorte. Mais il est certain qu'il y a un très grand épuisement et surtout un sentiment d'avoir complètement perdu la main sur son destin. C'est-à-dire tous les Syriens, quels qu'ils soient, se sentent complètement attendent que va dire Moscou, que fait Téhéran, est-ce que Trump va faire quelque chose, est-ce que l'Irak ça avance, est-ce que donc cette sentiment d'être complètement dépendant de plein de gens autour, de plein de forces, et de n'avoir absolument plus son mot à dire sur même sa vie quotidienne.
Est-ce qu'il parle encore justement de ça, ou c'est ce que du coup ça...
Ah oui.
Oui.
Oui, 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 bien sûr. Ils savent que bon, ah oui, la Turquie, elle a ouvert un bout de frontière, on va pouvoir avoir, etc. Tel produit qui va rentrer, qui ne va pas rentrer, telle organisation internationale va venir distribuer dans quel camp, le quotidien, c'est ça maintenant. C'est des millions de déplacés, de réfugiés qui attendent simplement que les autres répondent à leurs besoins, même immédiats, quotidiens.
Parlez-nous à la Kodmani. Dites-nous quelques mots de cette Nissan Ibrahim, qui est un surnom, hein, de cette jeune femme de 30 ans, que vous n'avez jamais rencontrée, mais à laquelle vous avez consacré tout un ouvrage.
Oui, je n'ai jamais rencontrée, et c'est peut-être parce que je n'ai pas eu la chance de la rencontrer que j'ai décidé de lui consacrer ce livre. Et parce que c'est son livre, hein, essentiellement. Cette jeune femme qui écrivait sous le pseudo de Nissan Ibrahim avait, pendant de 2011 jusqu'à 2015, tenu une sorte de chronique de la vie à Raqqa. Et je crois qu'à travers elle, c'est toute l'histoire du conflit syrien qu'on découvre, qu'on redécouvre, qu'on revit. et les étapes, c'est-à-dire même les étapes d'espoir, l'idéal, quand on a vraiment cru, comme elle le dit tellement, à la démocratie, à la liberté, de se débarrasser de la dictature de Bachar al-Assad, et puis comment bon, ce rêve a été confisqué par l'arrivée des djihadistes dans Raqqa. Et je crois que cette jeune femme est complètement emblématique de cette génération de Syriens qui ont lancé une révolution et qui se sont retrouvés pris au piège, comme on vient de parler, comme toutes ces populations qui n'ont jamais attendu ça, n'ont rien fait pour mériter tout ça. Et donc, cette jeune femme vivait à Raqqa, elle venait d'un milieu très modeste, mais c'est une fille très intelligente, qui a fait des études de philo, et qui vraiment sait exprimer les choses sans trop toujours dramatiser. C'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est ce côté à la fois dérision, humour noir bien sûr, quand elle parle des gens de Daesh qu'elle voit dans les rues de Raqqa. Et puis bon, elle a le mérite d'être restée à Raqqa et d'y avoir malheureusement
perdu la vie, exécutée par l'État islamique.
Et c'est très rare que l'État islamique exécute une femme pour des raisons sans doute politiques, puisque c'était surtout parce qu'elle, à cause de ses posts qu'elle publiait.
Et Nissan Ibrahim écoutait beaucoup la chanteuse libanaise Fairouz. C'est pour cette raison que vous avez choisi une chanson de Fairouz aujourd'hui à la Côte Manique. On écoute. Sanarjiou, nous reviendrons, c'est ça,
nous reviendrons.
C'est ça que dit cette chanson ?
Oui, c'est exactement la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état d'esprit des Syriens. C'est nous retournerons un jour dans notre quartier, nous retrouverons, nous reconstruirons notre vie en fait.
La voix unique de Fairouz, vous êtes ému à la Côte Manique, on le comprend, et vous communiquez, vous nous transmettez votre émotion. Restez avec nous, malgré tout, malgré votre émotion.